Merci de nous prêter vos oreilles une petite demi-heure sur CFM Radio pour un nouveau numéro de l'architecture des mémoires du monde. Nous arpentons, analysons et nous intéressons à l'astrologie de la cité de Cordes-sur-Ciel qui fête, je le rappelle, ses 800 ans d'existence en cette année 2022. Et dans chaque numéro que nous vous proposons, un signe astrologique et donc un secteur du village de Cordes-sur-Ciel. Et si vous voulez rattraper le train lancé depuis plusieurs mois déjà, je vous signale et vous rappelle aussi que tous les numéros précédents sont en podcast sur cfmradio.fr, disponible donc à la réécoute quand cela vous sied. Aujourd'hui, nous allons parler du signe de la balance, ce qui nous situe à l'ouest de Cordes, soit dans l'axe de la Grande Rue Raymond VII et la Porte des Ormeaux. Et pour nous guider, Gérard et Julie Conton, co-auteurs de l'ouvrage qui nous sert de référence pour cette pérégrination astrologique, patrimoniale et historique. Gérard, bonjour.
Bonjour.
Julie Conton, bonjour.
Et bonjour.
Alors, je rappelle le titre de votre livre qui est paru en 2014, c'est le Zodiac de Cordes-sur-Ciel, clé symbolique d'une bastide de Cathare du XIIIe siècle aux éditions Mémoire du Monde, maison d'édition associative qui est basée ici à Cordes-sur-Ciel. Alors comme à l'accoutumée et avant de rentrer dans le vif du sujet et arpenter ce quartier de Cordes armé de votre livre pour en décrypter les secrets, des secrets de tout à fait apparents, hein, on va rappeler les caractéristiques astrologiques du signe de la balance de manière générale, Julie.
Oui, alors quelques traits généraux de la balance. Alors la balance, c'est un signe qui est avant tout lié à l'équilibre, l'harmonie, la paix, les arts aussi, puisque c'est un signe qui est régi par Vénus, la planète Vénus, qui est la planète de la beauté, de l'harmonie, de l'expression artistique. Et de l'amour aussi.
Ok.
Donc la balance, alors c'est un signe d'air également qui est dans la communication, les échanges. Hein, ça, c'est les traits communs à tous les signes d'air. Et donc, quand on est marqué par la balance, souvent on a des qualités relationnelles et une quête d'harmonie hein, dans les relations. Et puis, c'est l'harmonie intérieure aussi. Donc c'est un signe qui pèse le pour et le contre. Alors il y a un peu l'image de la balance,
de la balance
qui pèse le pour, le contre, qui essaye de trouver le juste milieu entre les opposés,
les opposés,
la dualité.
Ouais.
Voilà, on retrouve ça dans le zodiaque.
Ben, c'est ce qu'on va voir. Maintenant, on va voir comment cela s'applique à Cordes-sur-Ciel. Hein, ce signe de la balance est symboliquement important pour la cité de Cordes-sur-Ciel, car dans ce secteur qui est à l'ouest, hein, sont remémorés, on va dire, les deux pères de la cité de Cordes-sur-Ciel, d'une part Raymond VII et Charles Portal, d'autre part. Qui était-il, Gérard?
Oui, alors c'est intéressant parce que Charles Portal, bien sûr, on peut presque dire que c'est le sauveur de la cité de Cordes, puisqu'il travaillait au monument historique. C'est un historien qui est de renommée à l'époque, il était connu, hein, et qui a, on peut dire, sauvé Cordes, puisqu'il a réussi à sauvegarder des bâtiments, hein, pour éviter à la fois leur délabrement ou leur destruction, mais en tout cas pour que les injures du temps ne ruinent pas un certain nombre de bâtiments classés, qui étaient des bâtiments historiquement intéressants pour Cordes. Donc, il s'est fortement intéressé à Cordes. On peut dire que c'est le deuxième père de Cordes.
Il va fonder une association qui existe toujours, la Société des Amis du Vieux Cordes, qui
voilà.
est détentrice des portes de Cordes-sur-Ciel, hein, la
Tout
porte des
fait.
Ormeaux, la porte des vainqueurs, etc.
Et d'ailleurs, cette association est à la porte des Ormeaux, en
oui,
balance.
Oui.
Et c'est intéressant parce que le premier père de la cité, le père historique, si on peut dire, c'est Raymond VII. Encore le nombre 7. Évidemment, on n'allait pas l'oublier, celui-là. Raymond VII, qui a établi Cordes par la charte du 4 novembre 1222 en calendrier julien, ce qui nous donne le 11 novembre dans notre calendrier à nous. C'est la première ville avec l'établissement d'une charte, disons, avec une place centrale. Enfin, on peut dire que là, il donne à cette cité une expansion économique, à la fois une expansion économique et puis une expansion historique. Cordes est extrêmement bien placée géographiquement, et donc l'un, on va dire, crée la cité, administrativement et juridiquement, et politiquement aussi, hein, économiquement sans doute aussi. Et puis Charles Portal la sauve au XXe siècle par les travaux de restauration et les travaux de classement et une méthode consciencieuse de sauvegarde du patrimoine.
Un musée lui est d'ailleurs dédié à Cantes-sur-Ciel, hein, c'est le musée Charles Portal qui se trouve au niveau de la porte des Ormeaux, on va y revenir. Mais si on fait appel à d'autres connaissances, d'autres liens, loin d'être du hasard, selon vous, peuvent être faits. Je veux parler des dates marquantes dans la vie de chacun de ces deux personnages-là.
Voilà, parce que là, les dates sont étonnantes, hein, puisque Raymond VII mourut le 27 septembre 1249 en calendrier julien, soit le 4 octobre 1249 dans notre calendrier actuel, et Charles Portal, eh bien ce même 4 octobre, mais en 1936, s'éteint le second père de corde, Charles Portal. Mmh. Donc c'est 4 octobre, deux fois 4 octobre, qui sont tous les deux, évidemment, dans le signe de la balance, et on voit la rue Raymond VII qui finit à la porte des Ormeaux, en balance, et le musée Charles Portal, qui est à la porte des Ormeaux, en balance. Et avec ce lien au 4 octobre. Donc on a une série de synchronicités tout à fait stupéfiantes qui montrent que la porte des Ormeaux, c'est le secteur clé, ou tout au moins l'un des secteurs majeurs, mais de Cantes-sur-Ciel. C'est l'inévitable, la porte des Ormeaux.
Mais tiens, parlons-en de cette porte des Ormeaux, hein, qui se trouve, où se trouve donc le musée Charles Portal, et qui est l'un des lieux d'accès à la cité, hein, lorsqu'on monte en voiture, notamment dans Cantes-sur-Ciel, pour aller vers l'église, là, pour situer tout le monde. On apprend déjà dans votre ouvrage que cette porte ne s'est pas toujours appelée porte des Ormeaux.
Oui, alors cette porte, elle s'appelait antérieurement la porte de Napaitavina, ce qui signifie la dame de Poitiers. Et donc, c'était la fille de Raymond VII.
D'accord, voilà. Ouais. Donc, c'est en hommage à sa fille qu'elle s'appelait comme ça, cette voilà. porte-là, auparavant.
Alors, ouais. On a une figure féminine qui peut faire clin d'œil à la planète Vénus, hein, qui est la planète maîtresse de la balance, justement. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a une figure féminine dans le secteur balance.
Dans le secteur balance, là, ouais. Voilà. Et puis, si on se pose devant cette porte des Ormeaux et que l'on l'observe bien, on va se rendre compte, par comparaison aux autres portes de Cantes-sur-Ciel, qu'elle est intrinsèquement différente dans la nature de sa conception, ce qui serait lié à ce signe de la balance, secteur où elle a été bâtie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, sur cette porte des Ormeaux, qu'est-ce qu'elle a de particulier?
Oui, alors ce qu'elle a de particulier, c'est qu'il y a un appareillage de pierres noires et blanches, enfin des pierres alternativement posées noir-blanc.
Un effet et, un peu damier comme ça.
Voilà, un effet de damier. Et alors ça, c'est particulier à cette porte, précisément cette porte dans le secteur balance. Et donc nous, on voit vraiment le lien avec la symbolique balance, puisque c'est l'alternance noir-blanc. Donc les contraires, un peu le yin et le yang, hein, voilà. Oui. Et donc là, c'est vraiment parlant, puisque la balance essaye de trouver toujours l'équilibre entre justement les opposés, le noir, le blanc, le yin, le yang, etc. Et puis quand on l'observe, quand on est devant la porte, au pied de la porte, on peut voir le glyphe de la balance, donc le symbole vraiment
le signe
graphique de la balance. Ouais. Avec la voûte enfin de la porte et puis et sous la voûte justement ce damier noir et blanc, donc
c'est vrai que les autres
alors évidemment il faut le savoir ça, ouais. Et puis avoir le regard acéré, je dirais, et puis enfin voilà, mais parce que le passant qui n'est pas au courant de ce zodiaque, etc., il va pas forcément s'en apercevoir qu'il y a le symbole de la balance, mais une fois qu'on le sait, on peut observer la chose. Et c'est vraiment pertinent. Enfin.
Eh bien tiens, ce sera l'occasion de remonter à Cantes-sur-Ciel pour bien observer cette porte des Ormeaux. Et d'ailleurs, on peut remonter dans quelques mois, là, car aux équinoxes, il faut vraiment se rendre à ces portes pour constater et confirmer que la cité de Cantes-sur-Ciel a bel et bien été bâtie suivant un cycle astronomique. L'équinoxe, je rappelle que l'équinoxe, c'est l'instant de l'année où la durée du jour égale à celle de la nuit. Cette année, il y en a eu un le 20 mars, hein, et le prochain, ce sera le 23 septembre. Qu'est-ce que l'on va constater si on se rend à cette porte des Ormeaux le 23 septembre, Gérard?
Alors là, on voit vraiment que Corde, le bâtisseur de Corde, a bâti Corde à caler corde sur les équinoxes, par l'équinoxe d'automne, puisque le soleil se couche très précisément au milieu de la porte des Ormeaux. Donc on peut mesurer, on peut toucher astronomiquement le symbolisme de corde. Donc c'est un symbolisme très concret. Il se couche donc au milieu de la porte des Ormeaux. Donc corde est calée par sa porte ouest au couchant. Et pourquoi le couchant ? Et pas seulement le levant, parce que le couchant est exact le 23 septembre, sous le signe de la balance. C'est lié à la dame de Poitiers. C'était la fille de Raymond VII. Elle a épousé le comte de Poitiers, le frère de Saint-Louis. C'est passé à la couronne de France. L'Occitanie est passée à la couronne de France. Nous sommes au couchant d'une civilisation. On n'est pas à son levant. Mmh. Donc, à la fois, il y a le symbole précis astronomiquement, le soleil se couche au milieu de la porte des Ormeaux, mais aussi c'est un hommage à la fille de Raymond VII, et c'est aussi une sorte de crépuscule pour la société occitane. Hein. Donc, et puis l'histoire de l'équilibre des jours et des nuits, très précisément à l'automne, ça nous renvoie évidemment dans la symbolique propre de la balance. Hein. C'est le lien entre le jour et la nuit qui sont totalement en équilibre. Donc on peut aussi là le mesurer concrètement.
Est-ce que vous avez quelque chose encore à ajouter sur cette porte des Ormeaux, oui Julie ?
Oui, par rapport à... Comment dire, par rapport à la couleur noir et blanc, enfin cette sorte d'alternance vraiment claire dans la porte, on peut faire le lien aussi avec le catharisme, puisque le catharisme a été influencé par les idées de Manès qui venait de l'Orient. Or dans le manichéisme, c'est vraiment le choc du bien et du mal qui est mis en valeur. Et donc, noir-blanc aussi.
Oui, donc toujours voilà. Cette dualité-là.
Donc voilà... Donc cette dualité renvoie aussi aux idées cathares,
voilà. D'une certaine manière.
Voilà, ouais. Voilà, qui considéraient le monde comme le champ de bataille entre le bien et le mal, en fait.
Eh bien, on va poursuivre notre pérégrination avec vous dans ce secteur de Cordes-sur-Ciel. Nous sommes dans le signe de la balance aujourd'hui, dans l'architecture des mémoires du monde. Et nous sommes dans le quartier de la Porte des Ormeaux, de la Grande Rue Raymond VII. On écoute un peu de musique, un peu de jazz, avec Erel Besson et Nessol Veras qui nous chantent « Neige ».
Thank you.
l'architecture des mémoires du monde, c'était le titre Neige d'Erel Besson et Nelson Veras. Nous sommes toujours en compagnie de Gérard et Julie Conton qui sont les co-auteurs de l'ouvrage Le Zodiac de Cordes sur Ciel, clé symbolique d'une bastide cathare du XIIIe siècle. Et dans ce numéro, nous sommes à l'ouest de Cordes sur Ciel, dans le signe de la Balance et grosso modo dans le secteur qui comprend la Porte des Ormeaux, la Grand Rue Raymond VII, la place Yves Brayer, un peintre surréaliste, autre figure importante de la cité, aux côtés de Raymond VII et Charles Portal dont on a parlé précédemment.
Oui, alors donc le peintre Yves Brayer a vraiment marqué la cité, enfin l'histoire artistique de la cité.
Et ce côté artistique là renvoie aussi au signe de la Balance.
Et voilà, ça fait le lien évidemment avec la Balance, qui est un signe vénusien, donc artiste. Et lié à la créativité. Alors ça peut être la peinture, c'est pas forcément que la peinture évidemment, mais là c'est intéressant de voir que dans ce secteur Balance justement on a la place d'Yves Brayer. Et on avait aussi en limite, enfin c'est vraiment limite, enfin par rapport à notre plan, hein, mais on peut, voilà, c'est l'académie d'Yves Brayer.
D'Yves Brayer, voilà. Oui.
Dans les années 40-50.
Ouais. Voilà. Qui a fait beaucoup par rapport au surréalisme, à l'art, aussi, alors, à Cordes sur Ciel.
C'est pas un peintre surréaliste, là, c'est un peintre réaliste.
D'accord.
Yves Brayer. Mais il a peint, d'ailleurs, paradoxalement, une très belle toile qui s'appelle La Porte des Ormeaux, qui est très très belle, c'est une des étoiles, je trouve, les plus réussies. Et donc, il a vécu là, enfin, il était vraiment là, à côté de la Porte des Ormeaux. Et donc, la Vénus, la planète Vénus, symbole de l'art, rayonnait à son maximum. C'est un peintre qui a encore une certaine cote aujourd'hui au niveau international, hein. Il est considéré dans les petits maîtres, ce qui est déjà un honneur, puisque rester au XXe siècle dans les petits maîtres du XXe siècle, c'est déjà...
C'est pas donné à tout le monde.
C'est pas donné à tout le monde. Il avait une belle manière de peindre. Et puis, il a peint beaucoup de scènes du Sud, en fait. Il aimait bien le côté terreux, chaud. Il y avait une chaleur dans... Et je trouve qu'il a bien senti la Porte des Ormeaux. Il l'a peinte plusieurs fois. Il y a une affiche à Cordes qui circule encore sur la Porte des Ormeaux, peinte par Yves Brayer.
Et dans cette rue, grande rue Raymond VII, si on se déplace un peu par rapport à la place Yves Brayer, on retrouve la galerie Escalipige, hein, qui met à l'honneur aussi, là, aujourd'hui, les arts aussi contemporains. On peut parler aussi de Jean-Gabriel Jonin, qui est peut-être aussi un autre père, d'une certaine manière, de Cordes sur Ciel. Il a été élu à la mairie de Cordes, adjoint à la culture.
Oui,
et je viens de voir qu'il est décédé en octobre aussi.
Il est décédé, je crois, au mois d'octobre.
Oui, le 28 octobre.
Oui, voilà. Là aussi, il y a des clins d'œil. Jean-Gabriel Jonin était un homme qui a écrit trois livres sur Cordes, les deux sur la cité, la cité philosophale. Et puis un autre. Et puis le troisième, c'était sur les artistes de Cordes. Donc ça, c'est une trilogie, un petit peu. Et alors, on a vu cette discussion. Un jour, il dit, moi, j'ai tout pris, la chimie et tout, mais il y a un secteur que j'ai pas traité, c'est l'astrologie. Et là, vous avez complété, en fait. Quelqu'un qui voudrait vraiment pénétrer complètement Cordes, il faudrait lire les livres de Jonin et puis notre bouquin sur le zodiaque de Cordes. Il aurait tout un lien entre l'alchimie, l'astrologie, le symbolisme. Ça serait extrêmement complet, en fait. Et puis, il a bien senti le puits de Cordes, le puits central aussi.
Oui.
Ça, il l'a très, très bien senti.
Alors, parlons du couvent Notre-Dame ou le couvent des Béatitudes. Hein. On va dire ex-couvent parce qu'aujourd'hui, il est passé dans le privé. Hein. Donc, ça appartenait avant à l'ordre des franciscains, c'est ça, si je ne me trompe pas.
Ça appartenait au départ, oui. Alors après, il y a eu, dans les années 68, après, c'est le Lion de Judas qui a repris ça, puis alors les béatitudes dans la suite. Hein.
Oui,
C'est des courants qui sont issus des mouvements un peu charismatiques des années 68, c'est-à-dire un christianisme très actif, très déclamatoire, très, très novateur, quoi, qui ensuite a connu des fortunes diverses. Mais effectivement, il y a eu une grande période, parce que la première période du couvent des Béatitudes, dans les années 68-70, c'était un pasteur protestant qui était marqué par l'orthodoxie avec des liens au judaïsme. Donc on avait un côté très écuménique. Et puis bon, tout ça après s'est dilué un petit peu et puis ils ont disparu quoi, maintenant. Hein,
c'est, mais c'est le lien ça. Que vous faites avec ces énergies d'amour, le côté un peu apaisé et serein d'un couvent, c'est le lien que vous faites avec le signe de la balance, car ce couvent se trouve dans ce signe de la balance.
Voilà, voilà, donc il y a une énergie d'amour transfigurée qui peut être l'amour oblatif là. Et bon, aujourd'hui c'est vrai que ce qui reste est un peu triste parce qu'on voit des... On voit un couvent aux travaux de tous les côtés. Enfin, on voit aujourd'hui les choses sont c'est. On espère.
Autre chose.
On espère qu'un jour il y aura une renaissance de ce bâtiment pleinement qui est intéressant.
Continuons notre jeu de piste à la recherche de symboles. On se rend devant la maison du Grand Veneur, une maison gothique qui est classée un monument historique et qui recèle sur sa façade pas mal de sculptures consacrées à la chasse. Et parmi celles-ci, il y en a une sur laquelle on va s'arrêter un peu plus particulièrement. C'est un double visage qui représente Janus Bifrons. Est-ce qu'on peut d'abord décrire un peu cette sculpture? Peut-être parler de qui est ce Janus Bifrons, Julie?
Oui, alors ce Janus, c'est Bifrons, déjà ça veut dire en latin haut de face, donc c'est un double visage avec des attitudes différentes et opposées. Mm-hmm. Donc d'un côté un visage angoissé qui semble pousser un cri, et puis de l'autre un visage apaisé, serein. Voilà, donc ça c'est vraiment le Janus Bifrons classique, on va dire. Qui est justement une figure de la dualité des opposés propres. Et donc là, on rejoint tout le symbolisme de la balance.
De la balance, oui.
Et sinon, Janus, en fait, c'était une divinité dans l'Antiquité des commencements. Et c'est pour ça qu'on, dans les villes, il était associé aux portes, puisqu'on entre. On entre.
On pénètre par là.
On pénètre, voilà. Mm-hmm. Donc c'était le dieu des commencements. Et c'est pour cela que voilà qu'on les mettait souvent aux portes. Et là, on le trouve non pas directement à la porte, mais dans le secteur balance. Donc il faut rappeler que la balance fait face au bélier, hein. Et le bélier, par contre, là, c'est le signe du commencement, c'est le premier signe du zodiaque.
Le premier signe du zodiaque, oui. Mmh.
Et en fait, la cité de Cordes, elle est construite sur ces deux secteurs bélier-balance, enfin cet axe. Bélier-balance est l'axe primordial dans le zodiaque de Cordes, parce que si on regarde la cité, c'est vraiment le grand axe, en fait.
C'est souvent c'est par là que les gens arrivent.
Quand on visite Cordes, c'est les deux... Enfin, c'est cet axe-là qui est principal.
On va rappeler, hein, le signe du bélier, c'est la place de la Bouteillerie, le parking de la Bouteillerie, la rue de l'Horloge. Voilà, c'est un peu ce quartier de Cordes-sur-Ciel par lequel, je sais pas, 80-90% des gens qui viennent visiter Cordes passent pour monter dans la cité. Mais cette maison du Grand Veneur, j'en reviens à elle, parce que elle a vraiment une particularité, une maison gothique comme celle-là, qui est différente de ce qu'on en a l'habitude de voir comme maison gothique. Hein. Elle a 4 étages et non pas 3. Et puis elle a pas mal de sculptures comme ça qui parlent de la chasse. Comment est-ce qu'on peut interpréter cela? Parce que raccrocher la chasse avec Cordes sur Ciel, quel lien on peut faire ou quel lien avez-vous pu faire avec les sculptures qu'on retrouve sur cette maison du Grand Veneur?
Oui, alors là-dessus, Jean-Gabriel Jonin avait pas mal travaillé. Il en parle d'ailleurs dans ses livres. En fait, il y a des clés symboliques cathares sur la maison du Grand Veneur, avec ces images de chasse qui représentent, qui peuvent être interprétées à plusieurs niveaux. Et un des niveaux d'interprétation, c'est la chasse des cathares par les inquisiteurs. Voilà.
Bon, on aurait eu encore énormément de choses à dire hein, sur ce quartier de Cordes-sur-Ciel hein, qui se trouve dans le signe de la balance. Là, on est à quelques secondes de la fin. Je ne sais pas s'il y a une information, dernière petite information que vous voulez souligner à ceux qui nous écoutent, Gérard, Julie. On renvoie tout le monde à la lecture du bouquin.
Oui, je crois, mais alors par rapport à cette scène de chasse là qu'on évoquait, qui a été restaurée au 19e par Viollet-le-Duc, c'est que ce qui était extraordinaire, c'est que en face de cette scène de chasse, il y a l'église. Donc il y a une sorte de jeu d'opposition.
Attrape-moi entre, si tu peux.
entre l'Église catholique, d'une part, et puis le catharisme sur, dans sa lecture symbolique et ésotérique du grand veneur. Quoi. Parce que le Christ est représenté souvent par un cerf, et le sanglier que l'on chasse et qui va se réfugier dans un bosquet, c'est le parfait. C'est-à-dire le cathare parfait qui est chassé aussi par les troupes. Hein, par les troupes royales, au moment de la croisade.
Eh bien, la prochaine fois, on parlera aussi d'une église, mais celle-là, c'est la première église de Corte-sur-Ciel, Notre-Dame de Lavaille, ce qui se trouve dans le secteur du Scorpion, dont on va parler le mois prochain dans l'architecture des mémoires du monde avec Gérard et Julie Contant. Je vous remercie d'être passés en studio.
Merci.
Merci.
Au revoir.